d'Europe 1.
Punchline, Laurence Ferrari.
Et on se retrouve dans nos débats sur Europe 1 avec Bruno Baudel, député de La République En Marche. Bonsoir, merci d'être là. Nous sommes avec Louis de Raguenel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis.
Bonsoir Laurence.
On va parler, allez, d'abord de Bébel, parce que on va pas pouvoir le laisser partir sans lui dire un dernier au revoir. Bébel qui a évidemment été au centre de l'hommage national qui lui a été rendu aux Invalides, avec le président de la République, les mots très touchants de son petit-fils, Victor. Et il y avait son fils, Paul Belmondo, qui a répondu aux questions d'Olivier Benkemoun de CNews. Écoutez-le.
Je pense qu'il aurait été très, très heureux de ça. C'était vraiment un bel hommage. Ce que le président a dit était juste. C'est sa vie. Nous, on la connaît, mais non, c'était vraiment très bien. C'est bien aussi que le public ait pu assister aussi. Et pour le voir pendant la nuit aussi, parce que ça, je sais qu'il aurait voulu quelque chose comme ça d'officiel, mais il aurait voulu aussi que le public puisse accéder. Donc ça aussi, c'est important. Et après l'hommage, on sentait l'émotion. Les militaires étaient émus et... Vous savez, mon père, il aimait la police, il aimait les militaires et il aimait les voyous aussi. Il aimait beaucoup de gens, il aimait beaucoup de choses et c'était un passionné, il s'intéressait à tout et c'était quelqu'un de vrai. Donc c'est pour ça que les gens l'aiment, parce qu'il ne mentait pas, il ne se cachait pas et c'était la vérité.
Voilà Paul Belmondo par Olivier Benkemoun sur CNews. Louis de Raguenel, ce qui est important, c'est que le public ait été associé dans cet hommage national aux Invalides. C'est-à-dire que là, à partir de 19h30, dans quelques minutes, ils vont pouvoir aller se recueillir sur le cercueil aux Invalides. C'est important.
Ah bah, moi, je trouve que c'est extrêmement important, parce que en plus, il est tellement français, Belmondo, il nous ressemble tellement. Enfin, on se retrouve tous un peu dans Belmondo. Et puis moi, je trouve quel panache cet homme. Et puis moi, ce qui m'a marqué en fait pendant cette cérémonie, c'est que je me dis, vous savez, on critique beaucoup la France et tout. Et on se rend compte quand même qu'il y a une chose qu'on sait encore faire, c'est rendre hommage à nos morts. Et on le fait vraiment avec, honnêtement, de manière extrêmement belle. Et ça tient à une chose aussi, c'est grâce à nos institutions, aux armées notamment. Et les armées, c'est pour ça que je pense qu'il faut les soutenir considérablement. Parce que si elles sont capables aujourd'hui de donner ça avec toute cette solennité, bien parce que derrière, en fait, il y a beaucoup de ressources. Derrière, il y a une histoire. Derrière, il y a l'expression de valeur. Et tout ça ne repose pas sur rien. Et voilà, moi, c'est ce qui me touche le plus dans cet hommage.
Et on a la musique du professionnel composée par Ennio Morricone. Il a souhaité, Jean-Paul Belmondo, que ce soit cette musique qui soit diffusée au moment de la sortie de son cercueil. On a été rejoint par Othmane Nasrou. Bonsoir.
Bonsoir.
Vice-président de Libre, région Île-de-France, bien sûr. Bel hommage pour notre bébelle nationale, n'est-ce pas?
Oui, bien sûr. Là, je crois que c'est un moment où on est tous unanimes et il faut qu'on puisse prendre le temps de célébrer aussi les gens qui sont dans la mémoire collective. Incontournable, voilà, et Jean-Paul Belmondo en fait incontestablement partie par tous les personnages qu'il a pu incarner, et on se retrouve tous d'une manière ou d'une autre dans l'un ou l'autre des personnages qu'il a pu incarner, où on se prend à rêver de pouvoir les incarner un jour, et donc forcément c'est un moment de recueillement tout à fait légitime.
Un tout petit mot, Bruno Bonnel, vous qui êtes un admirateur de Jean-Paul Belmondo, on lui a rendu les hommages qu'il fallait aujourd'hui.
Bah oui, c'est Belmondo, c'est un magnifique, un professionnel, un morfalou, un personnage hors norme, un Pierrot le fou, mais c'est aussi la personne qui incarnait une France heureuse. Et c'est pour ça qu'on a tous une nostalgie de cette France qui était la France du TGV, du Concorde, du spectaculaire, une France d'avant le wok où on pouvait dire alors heureuse dans le magnifique sans avoir un procès. Donc une France où on montrait que les Français savaient être à la fois respectueux, un peu coquin parfois, un peu Arsène Lupin, mais jamais violent et toujours heureux. D'ailleurs, son petit-fils a tout dit. C'était un soleil et son sourire reste pour nous tous une référence absolue.
Voilà pour notre bébelle nationale. Donc le public va pouvoir se recueillir ce soir toute la nuit près de sa dépouille. Et puis la cérémonie privée aura lieu demain en l'église Saint-Germain-en-Laye. Saint-Germain-des-Prés, pardon, à Paris. On va parler maintenant de l'actualité, évidemment, celle qui concerne nos banlieues avec Corbeil-Essonnes et ce fourgon de police, cette image terrible que nous avons décryptée longuement sur Europe 1 et sur CNews. Un fourgon de police attaqué par des hordes de délinquants qui doit faire marche arrière pour sauver la vie de ces policiers. On fait le point tout de suite avec Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1.
Oui, ce fourgon de police effectuait une ronde hier en fin d'après-midi dans le quartier des Tarterets quand les policiers ont vu un groupe d'une vingtaine de personnes postées dans un parc qui se sont précipitées sur eux. Les policiers ont alors tenté de disperser le groupe. Ils ont ouvert la porte latérale du fourgon et lancé des gaz lacrymogènes. Sur les images d'une vidéo amateur, on voit que le fourgon est la cible de jets de projectiles et notamment de cocktails Molotov.
Avancez, avancez, avancez,
vas-y,
L'un des engins explosifs a claqué sur le capot du fourgon sans prendre feu. Les policiers ont opéré un repli progressif. Aucun blessé n'est à déplorer. Les violences urbaines ont débuté la semaine dernière à Corbeil-Essonne après les interpellations de deux frères, l'un pour rodéo urbain, l'autre pour menace de mort et violence.
Marion Dubreuil, donc du service police-justice d'Europe 1, Louis de Raguenel. On est face à une image symbolique, celle de l'État français qui recule dans ces quartiers?
Oui, et en fait, on est aussi dans un peu, il faut le reconnaître, hein, dans la guerre des images, la guerre des perceptions. Alors, ça correspond quand même à une réalité, et une réalité qui est de plus en plus fréquente. Ça tombe très mal, en fait, pour le gouvernement, pour plusieurs raisons. La semaine dernière, on avait vu Emmanuel Macron à Marseille, qui voulait repartir à l'offensive sur les questions de sécurité. Donc, il a même commencé à Marseille par parler de ces questions-là. Et puis ensuite, pour le gouvernement, et notamment Gérald Darmanin, il a envoyé, si vous voulez, une unité un peu d'élite des CRS qui vient de naître, qui est la CRS-8, qui est basée à Bièvre, au même endroit que le RET d'ailleurs. Et donc, le gouvernement aussi teste un peu cette unité vitrine pour voir comment ça va fonctionner et si elle est efficace. Donc, c'est un peu un baptême du feu et le gouvernement va essayer aussi, sans doute, de communiquer là-dessus. Et la dernière chose, pourquoi ça tombe mal? Parce que mardi prochain, eh bien, Emmanuel Macron clôturera le Beauvau de la sécurité. Alors, le Beauvau de la sécurité, qu'est-ce que c'est? C'était en fait, ce sont des séminaires de réflexion pour améliorer notamment les liens entre la police et la population, et surtout, ça avait été réclamé par les syndicats de police parce qu'ils se sentaient pas suffisamment soutenus, trop attaqués, et donc précisément, on est dans le cas de figure de situations pour lesquelles le Beauvau de la sécurité doit apporter des réponses. Et donc pour Emmanuel Macron, aujourd'hui, honnêtement, oui, ça tombe très mal, et donc il va devoir forcément réagir à ces scènes tragiques qui sont des, il faut le dire, des scènes quotidiennes en France qu'on voit tous les jours.
Othmane Nasrou, vous, à la région Île-de-France, quand vous voyez ces images-là, dans votre région, vous vous dites, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans notre société?
Oui, il y a incontestablement un délitement de l'autorité de l'État. On a régulièrement dénoncé, on a essayé en tant que région, avec Valérie Pécresse, d'y apporter un certain nombre de moyens, même si ça n'est pas notre responsabilité, normalement, c'est celle de l'État. Mais en ce qui concerne l'équipement même des polices nationales, et bien sûr des polices municipales, en ce qui concerne le soutien aux forces de l'ordre en général, aujourd'hui, la région se retrouve à financer des moyens comme la rénovation des commissariats ou des casernes de gendarmerie. On a fait plus de 80 opérations en Île-de-France parce qu'on ne peut pas laisser nos policiers, et on le voit là, pris pour cible sans leur donner les moyens de mieux accomplir leur mission. Et aujourd'hui, tout ce qui est en uniforme est pris pour cible. Ce sont bien sûr les policiers, ce sont parfois même les pompiers qui sont visés. Et ça, c'est une réalité qui malheureusement est incontestable, mais elle est à condamner de toutes nos forces. Il faut à un moment que l'autorité de l'État s'exprime de manière plus claire. Et je crois que sur ce sujet-là, la réponse pénale reste un sujet et même un impensé encore aujourd'hui du gouvernement. Il faut qu'on aille au bout de la logique. Les déclarations martiales, c'est bien. Il faut que derrière, la chaîne pénale fonctionne à plein.
Bruno Bonnel de La République En Marche, effectivement, la question de la réponse pénale, elle est centrale. 40 magistrats annoncés par Éric Dupond-Moretti pour Marseille, c'est bien, mais c'est peu, évidemment.
Attention de ne pas prendre chaque totem comme un débat en préparation des présidentielles. Je ne vais pas vous faire à cette table le discours de c'est bien sous Sarkozy, dont Mme Pécresse a été un ministre.
Mais si vous nous le faites, vous voyez, n'hésitez pas.
Non, mais ça veut dire que ça n'amènerait rien. J'aimerais bien que nos auditeurs se rappellent qu'en France, nous avons une séparation des pouvoirs. Les législateurs ou l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, n'a aucun pouvoir sur les décisions du judiciaire. Donc arrêtons de faire croire aux gens que c'est la responsabilité du gouvernement de faire condamner les gens.
Je me permets simplement de réagir à ce que vous dites. C'est, le gouvernement, en revanche, a une responsabilité qui est de donner des moyens à la justice.
Personne. On va laisser Bruno Bonnel terminer sa phrase.
Non, allez-y, Bruno.
Je veux juste dire que les discussions de café du Yaka Faucon, que le gouvernement doit faire punir plus gravement les délinquants dans les cités, c'est sous l'autorité des juges. À côté de ça, il y a le problème des moyens. 10 000 policiers sur le quinquennat, effectivement, ce ne sera probablement pas assez. Il faut aller plus loin. Mais par contre, c'est la première fois qu'un gouvernement décide de le faire et va dans le bon sens, c'est-à-dire l'augmentation des moyens. Donc, je pense que là, plus que jamais, sur ces questions-là, si on pouvait avoir une unité et pas se retrouver dans une assemblée où on a, pour des raisons totalement idéologiques, des groupes qui considèrent d'un côté que les policiers font des violences policières et de l'autre côté qu'il n'y a jamais assez d'ordre, eh ben, ça ferait du bien à toute la France.
On poursuit ce débat dans un instant sur Europe 1 dans Punchline. À tout de suite.
Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari.
On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec nos débatteurs. Bruno Bonnel de La République En Marche nous a rejoint. Aurélien Taché, bonsoir, député du Val d'Oise. Othmane Nasrou est avec nous, vice-président de Libre en région Île-de-France. Et Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. On évoquait la sécurité. Aurélien Taché, ce qui s'est passé à Corbeil-Essonnes, ce fourgon de police attaqué qui doit faire marche arrière pour sauver la vie des fonctionnaires qui sont à l'intérieur. Est-ce que, encore une fois, c'est la loi, une autre loi que celle de l'État qui aujourd'hui est en vigueur dans ces quartiers compliqués comme les Corbeil-Essonnes et la cité des Tarterets?
En tout cas, la loi de l'État a du mal à s'appliquer, ça c'est clair, on le voit bien. Et puis, de toute façon, dans ces situations de violence urbaine, on voit aussi qu'il suffit d'une étincelle pour que tout devienne incontrôlable. Donc, il y a quelque chose qui est évidemment très problématique. Là, il y avait eu cette interpellation encore avec une affaire de rodéo urbain dont on n'arrive jamais à se démêler, et puis avec des mamans qui essaient d'intervenir. Donc moi je redis qu'il faut plus les écouter, plus les intégrer aux politiques qui sont mises en place.
Il y a un dialogue qui est engagé entre le collectif des mamans et les policiers.
C'est vrai, vous avez raison. Ce que je regrette, c'est qu'à chaque fois qu'on va les chercher, c'est quand c'est trop tard, c'est qu'on n'essaie pas de construire avec les habitants de ces quartiers, avec ces mamans-là, des stratégies de prévention plus fortes, qu'on ne donne pas aussi plus de moyens, peut-être aux policiers municipaux, pourquoi pas. Sur les rodéos, il faut peut-être essayer, il faut faire quelque chose, parce que moi, à Sergi,
ils peuvent rien
que...
faire sur les rodéos, vous le savez parfaitement.
Ben, déjà, ils n'ont pas le droit d'intervenir.
Voilà,
ils n'ont pas le droit d'intervenir.
Donc, ils sont juste prendre la plaque d'immatriculation et attendre que la moto s'arrête.
Moi, je pense qu'encore une fois, il faut remettre du lien, beaucoup plus de lien entre les habitants des quartiers où il y a des difficultés et les policiers. Et puis qu'après, il faut se demander pourquoi dans ces quartiers, à la moindre étincelle, comme je le disais à l'instant, tout devient incontrôlable. C'est bien qu'on est quand même sur des territoires où, oui, la loi a du mal à s'appliquer, mais où aussi les services publics ne sont pas mis en œuvre de la même manière que sur le reste du territoire. Et à un moment, on a une situation explosive comme celle qu'on vit en
Donc
ce moment.
Donc c'est pas de leur faute, c'est la faute de l'État ?
Non, c'est un tout. Ah. C'est un tout. Il faut que chacun ait les mêmes chances au départ pour qu'on puisse qu'ensuite on puisse décider que chacun est responsable.
Othmane Nasrou.
Moi, je ne peux pas entendre que c'est parce qu'il n'y aurait pas assez de services publics qu'on s'en prend à un camion de police. Je pense que c'est manquer de respect à tous ceux qui n'ont pas assez de services publics. Ce ne sont pas tous des gens qui ensuite s'en prennent aux forces de l'ordre. Et je crois que cette culture de l'excuse, elle est une partie du problème et pas une partie de la solution, justement. Moi, je veux juste dire une chose d'abord. Quand on dit que, comme l'a dit Monsieur Bonnel tout à l'heure, que le gouvernement n'a pas pris sur la réponse pénale, c'est faux, notamment sur l'aspect pénitentiaire. Je veux rappeler ici qu'il y a 60 000 peines de prison non exécutées tous les ans dans notre pays, faute de places de prison, et que contrairement à ce qui avait été indiqué par ce gouvernement, nous serons très 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 loin des objectifs qui avaient été annoncés par le président de la République.
À peu près 1 600 places ont été construites.
Oui. L'année dernière, on en était à peine à 200 places livrées, et donc certes, c'est engagé, mais il y a un retard et il faut ce rattrapage. Bien sûr qu'il faut aussi du dialogue entre les jeunes et les forces de l'ordre, mais je crois que quand on a des images comme celles qu'on a aujourd'hui à Corbeil-Essonnes, la première réaction, ça doit être la fermeté, ça doit être de rappeler les règles, ça doit être que chaque faute, que chaque délit doit être sanctionné. Et là, nous avons affaire à un comportement délictueux qui, heureusement, n'est pas le fait de tous les jeunes, mais d'une petite minorité ici. Et je crois qu'il ne faut pas mélanger la sanction et la prévention. On a certes besoin des deux, mais aujourd'hui, ce qui manque le plus, je crois que c'est quand même la sanction.
Louis de Ragnel, effectivement, la question de la réponse pénale, on en a souvent et beaucoup parlé. Il y a aussi, et c'est des Gérald Darmanin qui l'a souligné, un problème d'autorité parentale. Il dit qu'il y a une violence endémique chez les plus jeunes en manque d'autorité parentale.
C'est vrai, moi il y a quelque chose que j'observe, c'est que très souvent en fait on parle des mères, on parle des femmes, mais je me demande toujours où sont les pères. Parce qu'en fait, alors je sais qu'en ce moment, tout le monde dit que l'homme est équivaut à la femme, que tout se vaut et tout ça, et moi je crois vraiment à des qualités qu'ont les femmes et des qualités qu'ont les hommes. Et si possible, quand on a la chance d'avoir un père, eh bien, je trouve que le père doit exercer aussi cette autorité parentale, précisément à l'adolescence et pour tout le passage à l'âge adulte. Je dis pas que ça, il doit remplacer la mère. Et voilà, moi, je crois vraiment à cette complémentarité-là. Et souvent, en fait, aussi, on peut faire le constat de manière objective que il y a beaucoup de femmes qui sont toutes seules, qui doivent gérer plein de problèmes, qui doivent gagner de l'argent, gérer leurs enfants qui vont pas à l'école. Et c'est vrai que voilà, le rôle du père dans ces situations-là interroge ensuite...
Beaucoup de familles monoparentales dans ces quartiers.
Effectivement, et ensuite la deuxième chose, c'est ce que dit Othmane Nasrou est intéressant, c'est qu'il faut aussi bien expliquer qu'il faut remettre les choses à l'endroit. C'est-à-dire, on tape pas le policier. Aujourd'hui, ce qui est quand même dingue quand même, c'est qu'on voit que c'est la police... On tend des pièges à la police. Enfin, il y a une inversion totale de tout. La police qui détale, c'est quand même des images... C'est extrêmement humiliant, à la fois pour l'État et puis pour tous les Français. français. C'est-à-dire qu'on est quand même attaché à avoir une police qui nous protège et qui ne fuit pas quand elle est censée protéger, parce qu'elle ne se protège pas elle-même. Elle protège aussi tous les habitants dont la vie est pourrie par ces gens mettent le bazar matin, midi et soir.
Et la grande colère des Français, c'est de voir qu'il y a une impunité pour ceux qui commettent ces exactions, alors que eux, quand il faut qu'ils payent des amendes ou qu'ils soient en proie à un certain nombre d'administrations de notre pays, là, il n'y a pas d'échappatoire, il faut payer et il faut aller jusqu'au bout, Bruno Bonnel.
Oui, c'est vrai qu'on pourrait avoir des théories sans arrêt sur le Yaka Faucon. Attention, la police ne détale pas. Il y a trois policiers dans un fourgon, agressés par une meute de lâches, de pleutres, qui balancent des cocktails Molotov. Et on a vu que récemment, il y en a qui se sont fait brûler gravement. Donc, il y a un moment donné où la survie est essentielle. Non, mais il ne faut pas dire la police détale. Il faut dire dans cette circonstance particulière.
Ils le disent eux-mêmes.
Non, mais dans cette circonstance particulière. Non, mais je dis ça par rapport à la guerre des images que vous évoquiez tout à l'heure, qui me semble quelque chose de très important dans cette guerre. Maintenant, il y a des attention non plus de pas faire le procès de ces familles monoparentales. Il faut retrouver un creuset républicain. C'est pour ça que moi, je suis un des partisans de remettre effectivement ce service national universel en chantier pour qu'on retrouve un endroit pour redonner des références, que ça soit sur 3 mois, le week-end, je sais pas, c'est à travailler, mais arrêtez de penser qu'on résoudra tout ça d'un coup de baguette magique, soit par de l'ordre nouveau, qui serait dramatique à mon avis, parce que ça ferait des affrontements toujours plus grands, je laisse ça aux gens qui pensent ça à l'extrême droite, soit par une égalité entre les gens qui portent l'uniforme et les voyous. Ça, je pense qu'on doit, à un moment donné, dans le discours politique, arrêter de dire violence policière et flics corrompus ou que sais-je. Il faut commencer à dire, il y a l'uniforme, c'est l'autorité officielle de l'État chargée d'ailleurs d'être des gardiens de la paix, avant d'être des forces de l'ordre, et il faut leur redonner un crédit confiance qu'ils ont perdu.
Aurélien Taché, vous n'êtes pas d'accord ?
Non, mais je suis évidemment d'accord qu'il y a un respect de l'uniforme qui est le principe. Il ne s'agit pas de mettre une égalité entre les voyous et les policiers, simplement pour que les sanctions elles soient comprises et pour que finalement le respect de la loi aussi soit quelque chose qui soit beaucoup plus largement accepté. Il faut que les sanctions... moi, quand j'entends mon collègue Bruno Bonnel dire qu'il faut arrêter de parler de violence policière ou autre, il y a quand même un certain nombre aussi de réalités de ce point de vue-là dans ce pays... Pas plus tard que cette nuit, on a à Tourcoing un jeune qui s'est fait tirer dessus à 7 ou 8 reprises parce qu'il essayait de partir avec sa voiture, un jeune de 16 ans, par des policiers. Il y a beaucoup de questions qui se posent aussi sur un certain nombre... Oui, ça me choque. Que des policiers tirent à 7 reprises sur un gamin à bord d'une bagnole qui marche arrière, ça me choque.
Il y a une chose qui m'interpelle chez vous, c'est qu'il y a quelques jours, on était sur le même plateau et vous disiez, il faut plus de moyens, il faut que la police puisse aller plus loin et tout. Et en fait, les mêmes qui disent, à chaque fois, dès qu'on voit des images dramatiques où les policiers se font taper dessus, les mêmes qui disent « Ah, c'est terrible, il n'y a pas assez de moyens, il faut qu'il y ait des instructions plus claires. » Dès lors qu'un policier utilise la force, que ce soit en légitime défense ou alors en intervention, et on verra, mais je mets ma main à couper...
J'espère qu'on verra.
Mais les conditions d'intervention... En fait, là, on est sur un plateau de télévision, c'est hyper facile de dire, on aurait dû faire ci...
Un gamin de 16 ans qui a volant une voiture...
Mais il s'arrête quand il voit les policiers, peut-être, non ?
Oui, d'accord, mais est-ce que pour autant, il faut lui tirer dessus à 8 reprises s'il ne s'arrête pas ? Je ne suis pas sûr, mais peut-être...
Moi, quand je me promène en France, si les policiers vous disent de vous arrêtez et il n'y a aucune chance qu'on vous tire dessus. Aujourd'hui, si on vous tire dessus, c'est parce que, ou si les policiers ouvrent le feu, c'est parce qu'il y a des conditions extrêmement précises d'ouverture de feu. Et le drame aujourd'hui en France, c'est pas tant que les policiers ouvrent trop le feu, c'est plutôt le contraire. Ils sont tellement inhibés, ils ont tellement peur de l'IGPN, parce qu'en fait, ils ne peuvent sortir leur arme qu'une fois qu'ils sont morts. Mais c'est ça le drame.
On peut débattre de tout, mais sérieusement,
mais ils ne peuvent ouvrir aujourd'hui l'ouverture de feu pose énormément de problèmes et tous les policiers le savent. Dès qu'ils ouvrent le feu, il y a un rapport circonstancié. Heureusement d'ailleurs qu'on leur pose des questions après, mais ils n'ont qu'une seule trouille. C'est le rapport, l'inspection de l'IGPN qui, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, est extrêmement dure avec les policiers. Il y a énormément de condamnations de policiers, parfois de manière un peu excessive et abusive sous le poids de l'opinion publique. Et du coup, moi, ce qui me surprend, c'est votre paradoxe. Avant-hier, il fallait plus de police. Aujourd'hui, la police intervient.
Il faut choisir son camp. Je veux plus de moyens, mais non, il ne faut pas choisir son camp. Et non, justement, là, vous faites exactement l'erreur.
Il n'y a pas d'autre chose.
Ceux qui finalement essayent de, parfois même en ayant l'autorité de l'État, de dire qu'il y aurait des bons et des mauvais citoyens et que l'État aurait finalement à choisir entre les citoyens. C'est un préfet de police célèbre à Paris qui a dit choisissez votre camp, je ne suis pas dans le vote, madame. Moi, je ne serai jamais de ceux qui demandent à choisir son camp. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il faut des moyens. moyens pour que les policiers puissent faire leur travail correctement, évidemment. Avoir des moyens pour faire son travail correctement, ça n'est pas modifier la loi ou ça n'est pas souhaiter qu'il soit plus simple pour les policiers de pouvoir tirer sur les gens quand il se passe quelque chose, parce que la violence appelle la violence. Vous, vous pensez peut-être qu'effectivement, c'est la guerre des gentils contre les méchants. Moi, je ne crois pas tout à fait ça. Je pense qu'effectivement, on ne sait pas exactement quand un gamin, s'il est au volant d'une voiture, s'il a peur, s'il y a autre chose ou quoi que ce soit.
Ça et
que la réponse ne doit pas être uniquement des coups de feu. La réponse doit être de donner effectivement aux policiers de faire le moyen, mais pas uniquement.
Une enquête de l'IGPN est en cours, en tout cas.
Vous savez pas ce qui s'est passé avant.
Juste très rapidement.
L'enquête de l'IGPN est lancée.
Soit, mais l'IGPN est quand même la seule autorité qui contrôle les policiers en Europe à être faite par les pairs, c'est-à-dire faite par des collègues, faite par d'autres policiers. C'était pas la justice indépendante qui contrôle.
Si un procès, c'est la justice.
C'est un petit peu simple. Et j'aurais voulu répondre sur la culture de l'excuse à M. Attrou aussi, parce que ça n'est pas une question de pouvoir finalement, excusez-moi si j'ai écorché votre nom. Ça n'est pas une question.
Ce qui me gêne le plus, c'est ce que vous dites des policiers, parce que quand je vous entends parler, on a vraiment l'impression qu'ils sont toujours pour vous les responsables, les ceux à mettre en cause.
Non, mais par contre, vous, systématiquement, vous partez du principe que
toujours. Ah oui, je pars du principe.
Vous partez du principe qu'essayer d'expliquer des situations
sans excuser.
Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage pour quelqu'un qui connaît, comme moi, l'île de France, qui sait quand même qu'il y a un certain nombre de difficultés dans un certain nombre de villes et qu'on ne peut pas considérer que c'est tout à fait pareil dans un certain nombre de villes dans lesquelles on est élus tous les deux, je crois, que ailleurs.
Voilà. Monsieur Taché, quand vous dites la violence appelle la violence, c'est-à-dire que vous faites fi de ce principe de base du monopole de la violence légitime par les policiers. Ce sont les policiers qui ont le droit, dans un certain nombre de cas encadrés par la loi, bien sûr, mais ce sont eux qui ont le droit d'utiliser la violence, y compris pour se défendre, y compris pour nous protéger. Bien sûr, une violence proportionnée, mais à chaque fois que je vous entends parler, je vous entends systématiquement prendre le parti contre les policiers.
J'essaie de
rééquilibrer contre les policiers.
Un tout petit
peu le débat public qui, en ce moment,
est quand même très orienté.
Oui, mais là, vous ne l'équilibrez pas, vous le déséquilibrez. Finalement, vous êtes toujours dans le en même temps. À la fois, vous dites qu'il faut des moyens supplémentaires aux policiers, mais pour vous, les policiers, ils sont toujours coupables en premier.
Non,
c'est premier.
Allez, on fait une petite pause.
Il y a la violence et la force, mais on en reparlera tout à l'heure,
sous
si
le
vous
pied.
Voulez.
On en reparle dans un instant, juste après la pause. On écoutera aussi Éric Ciotti, qui est au journal parlementaire LR. Il parle de ses problèmes d'insécurité. Et il dit qu'il est un homme de droite et qu'il ne s'en excuse pas tout de suite.
Europe 1.
On se retrouve dans un instant dans Punchline pour la suite de nos débats. Ne bougez pas, à tout de suite.
Europe 1. Punchline. Laurence Ferrari.
C'est bon de savoir que vous appréciez nos canapés. Et qu'en plus, chez Poltron et Sofa, il y a une remise de plus de 50% sur les nouveaux modèles de la collection. Nous vous attendons dans nos magasins.
Poltron et Sofa, authentica qualità. Et voilà!
Qualité authentique, vérifiez modèles et conditions en magasin.
Le bon choix assurance et gestion de patrimoine, c'est votre choix. Un choix bien conseillé avec Swiss Life. Rendez-vous sur swisslife.fr pour un diagnostic complet.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô, allô, patron.
T'as la banane, toi, dis donc.
Ah bah non, c'est plutôt Lidl qui l'a. En ce moment, ils nous font un kilo de banane à 99 centimes.
99 centimes le kilo de banane? Mais ils nous prennent pour qui?
Pour des bananes, patron.
Tu crois que c'est le moment de faire tes blagues à deux balles? T'es mal, hein?
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Et toute l'année, un choix de plus de 140 fruits et légumes chaque jour en supermarché. Catégorie 1, variété Cavendish, calibre P20, diverses origines selon arrivage en supermarché. Plus d'informations sur Lidl.fr.
18h-20h sur Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
Et on se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Louis de Ragnel, chef du service politique, Aurélien Taché, député du Val-d'Oise, Bruno Bonnel de La République En Marche, député aussi, et Othmane Nasrou, vice-président de la région Île-de-France, vice-président libre. Alors on va écouter Éric Ciotti, c'était les journées parlementaires des Républicains aujourd'hui. On va l'écouter parce qu'il y a un certain nombre d'auditions de ceux qui sont candidats, alors candidats peut-être pour une primaire de la droite. Éric Ciotti en faisait partie, écoutez sa réaction recueillie par Alexandre Chauveau.
Je ne m'excuse pas d'être un homme de droite et je veux porter ce message à droite et de la droite, mais je veux le faire sur des idées très précises. Je dresse le constat d'un pays en voie de déclassement, en déclin sur beaucoup de sujets, sur l'éducation, sur l'industrie, sur la démographie, d'un pays en proie à l'insécurité, à la violence, d'un pays qui ne maîtrise plus son immigration, qui voit ses racines attaquées, son mode de vie attaqué. Et donc, je crois que pour faire face à ces dangers, à ces menaces, à ce déclin, à ce déclassement, il faut un sursaut.
Bigre, il n'y va pas avec le dos de la cuillère, Bruno Bonnel, Éric Ciotti, un pays en déclassement.
Savez,
sur tous les sujets, là, tout est acheté.
On peut être de droite et être très gauche, hein, c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il raconte à peu près tout et n'importe quoi parce qu'il est dans une course à l'échalote de ses primaires. Il cherche à... C'est très simple, c'est du marketing politique. Laurent Wauquiez a décidé de ne pas y aller. Le segment dans les Républicains de la droite est libre. bah, s'il peut faire 4, 5, 6 points pour les ramener ensuite à un candidat un peu plus crédible, il le fera. Donc là, il ne faut pas s'illusionner. C'est un discours de républicains aux républicains. Ça ne demande pas la France. Quant au déclassement, pardon, mais on vient juste d'annoncer juste un exemple sur les bêtises qui ont été dites. Déclassement industriel, 550 usines qui ont réouvert depuis le début du quinquennat. Pour la première fois depuis 2000, des dizaines de milliers d'emplois industriels qui sont recréés et des sociétés qui reprennent des parts de marché. Donc, à un moment donné, arrêtons de dire n'importe quoi et d'utiliser l'anecdote comme argument politique.
Othmane Nasrou, vous qui soutenez Valérie Pécresse, il y a une course à l'échalote, comme le disait Bruno Bonnel, à droite.
Oh, il y a surtout un déni de réalité, parce que de ne pas voir que notre pays va mal, c'est quand même être d'une cécité absolument... qui me fait froid dans le dos, puisque j'ai affaire ici à l'instant avec Bruno Bonnel, un député de la majorité. Et donc, de ne pas voir qu'il y a effectivement des défis, des menaces qui pèsent sur notre pays,
c'est
inquiétant quand on est aux responsabilités. Et je crois que ça éclaire beaucoup de choses, du coup, de l'inaction de ce gouvernement.
Non, mais commentez Ciotti plutôt. Faites-nous plaisir. Commentez ce que vient dire M. Ciotti. Est-ce que vous êtes d'accord que vous n'avez pas honte d'être de droite et qu'effectivement, ce qu'il raconte est cohérent avec la politique que vous voulez mener?
On vient de l'entendre à l'instant dire qu'il y a un déclin de notre pays et qu'il y a un déclassement.
Fort, déclin. Il y a un déclin. D'accord que le déclin est fort.
Mais quand vous voyez que notre part d'exportation mondiale a été divisée par deux en 10 ans, quand vous voyez que notre dette publique atteint des niveaux vertigineux, bien sûr qu'on est des défis majeurs.
Covid.
Quand vous voyez, mais attendez, quand vous
COVID
voyez la réforme de l'État, la réforme de l'État ne s'est jamais faite. Attendez, on était déjà. Quand vous voyez qu'on a le plus haut taux de dépenses publiques quasiment des pays de l'OCDE, avec un service public qui continue de se dégrader, quand vous voyez que notre attractivité ne se porte pas au mieux, enfin, je veux dire, d'ailleurs, c'est un sujet européen, pas simplement français, que de voir qu'aujourd'hui, on est en train de sortir de l'histoire, Monsieur Bonnel. Et donc, que vous réduisiez ça à un sujet périphérique, partisan, etc., c'est dommage, parce que je crois qu'on aura attendu de la majorité aux responsabilités qu'elles prennent conscience, quand même, de ce qui est en train de se passer dans le pays.
Non, mais moi, je vous demande, est-ce que c'est cohérent, est-ce que Mme Pécresse est cohérente avec le discours de M. Ciotti? Parce qu'à un moment donné, vous allez être obligé de vous regrouper pour peser dans le débat, et vous allez vous retrouver avec... Alors là, c'est même plus du « en même temps ». C'est un bloogie-boulga d'opinion.
On va bien dire
on va
ça.
Taper un peu de partout.
Alors, Louis Dragnel et Aurélien Taché.
Je trouve que vous allez un peu loin. C'est que, on a l'impression que vous découvrez Éric Ciotti. Il a toujours dit ça. Éric Ciotti, c'est pas du tout adapté à un électorat. Il a une vraie constance. Non, mais c'est un spécialiste des sujets de sécurité d'immigration. Ça fait 15 ans qu'il vraiment, c'est à droite, en tout cas, il est reconnu pour ça. Et il a toujours tenu ce discours-là. Il a pas vraiment évolué. Et après, sur une chose, sur l'immigration, il a raison. Si on regarde, non mais factuellement, 2019, on prend une année justement avant le Covid pour avoir des données objectives. 276 000 premiers titres de séjour qui ont été délivrés. C'est un record absolu qui n'avait jamais été atteint sous les précédents quinquennats.
Eh bien, c'est pas vrai.
Mais je vous assure. Mais
les chiffres dedans, il y a du renouvellement, il y a des étudiants.
Je peux vous faire toute la décomposition. 90 000 titres de séjour au nom des étudiants étrangers. 98 000 immigration, regroupement familial. Ensuite, on est seulement à titre humanitaire. Vous savez combien il y en a ? 35 000 en 2019. Et les étudiants étrangers. Wow. Non, mais on va regarder de près. Mais regardez, faut regarder la vérité en face. C'est pas des étudiants de Harvard. C'est pas des. On n'attire pas que l'élite mondiale. C'est pas tout ça. C'est le premier levier de détournement de l'accès à la nationalité en France. Donc, je suis désolé quand on regarde objectivement la situation de l'immigration. Et je pense que c'est pas un hasard si Gérald Darmanin est arrivé en fin de quinquennat après ces chiffres qui étaient très mauvais sur les questions migratoires. Précisément pour essayer de serrer la vis, parce que des gens comme Othman Nasrou et la droite, Emmanuel Macron savait très bien que la droite allait taper là-dessus.
Alors Aurélien Taché.
Sérieusement, comment on peut à la fois être d'accord avec Éric Ciotti quand il dit que finalement la France est un pays en déclin, et puis avoir peur qu'un pays de 70 millions d'habitants, 5e ou 6e puissance mondiale, on ne sait pas trop, a priori c'est 5e maintenant, si j'en crois ce que dit la majorité en ce moment, ne peut pas accueillir 30 000 personnes à titre humanitaire? Non mais quelle espèce de vision de la France?
Alors
vous y croyez, la grandeur de la nation française, ou vous y croyez pas? Parce que franchement, quand on écoute...
Je n'ai pas dit ça, j'ai simplement dit que justement sur les 276 000 titres de séjour, en fait il n'y en a que 35 qui concernent les titres humanitaires. Et tout le monde dit à tort que les titres de... Tout le monde laisse entendre à tort que les titres de séjour sont délivrés à des gens qui souffrent, qui sont...
Mais 30 000 titres humanitaires, c'est peu. 90 000 titres étudiants, c'est des gens qui font des études et qui repartent.
276 000 premiers titres de séjour. Au total, il y en a 3,2 millions qui sont renouvelés chaque année. 276 000, c'est un peu plus que la population de la ville de Bordeaux. Et si vous continuez comme ça, je suis désolé, mais vous donnez des arguments à tous les gens qui parlent de grand remplacement.
Je vais répondre un petit peu précisément.
Parce que chaque année, la ville de Bordeaux, l'équivalent de la ville de Bordeaux qui récupère un titre de séjour, un premier titre de séjour.
La ville de Bordeaux, la ville de
théorie
Bordeaux,
du grand remplacement,
avec ces espèces de comparaisons qui n'ont pas de sens. 90 000 titres au titre du regroupement familial. Si on interdit cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, vous, moi, demain, si on se marie avec quelqu'un qui n'a pas la nationalité française, cette personne ne pourra pas venir vivre en France. C'est ce que vous souhaitez? Vous souhaitez qu'on interdise aux Français de se marier avec des étrangers? Bon, bah d'accord. Non, 80 000 titres en moins. 80 000 titres pour les étudiants. Les étudiants, ils viennent, ils étudient, ils repartent, ou s'ils réussissent leurs études. S'ils réussissent leurs études et qu'ils ne repartent pas, c'est pas très grave parce qu'ils vont apporter à l'économie française, ça va apporter des talents, ça va apporter d'une richesse. Ouais. Vous nous disiez tout à l'heure, c'est pas les étudiants barbares qu'on a. Vous savez, les frais d'inscription, moi je m'y suis opposé à l'époque, Bruno Bonnel le sait, ont été considérablement augmentés pour les étudiants étrangers sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc ceux qui viennent, c'est plutôt ceux qui ont les moyens maintenant. Et le reste, c'est 30 000 personnes à titre humanitaire. Et même ça, c'est encore trop pour la 6e puissance mondiale. Je comprends pas comment on peut parler. Regretter le déclin de la France, c'est aussi frileux.
Vous êtes d'une extrême mauvaise foi.
On peut parler des droits d'asile, inscrire les judéo-chrétiennes dans la constitution française. Ah, c'est ça qui va faire que la France va tout d'un coup retrouver sa splendeur. C'est ridicule.
Allez, Fatman Nasrou, ramenez un peu de paix et de calme sur ce plateau.
Les faits sont têtus, les chiffres sont là. Ce que dit Louis Dragnel sur le fait qu'on a eu en 2019 un sommet historique en termes de nombre de titres de séjour délivrés est une réalité. Ça, c'est un fait. Et que vous ne voyez pas que derrière, il peut y avoir aussi des dévoiements de nos filières d'immigration, c'est aussi là aussi un déni de la réalité. Et puis quand vous ne voulez pas admettre que quand quelqu'un est débouté du droit d'asile dans notre pays, eh bien 9 chances sur 10 de pouvoir se maintenir malgré tout sur notre sol, alors qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, et que vous n'en parlez pas. Non mais bien sûr, mais ça c'est la réalité que vous ne voulez pas voir. Donc la question, ça n'est pas simplement d'accueillir, c'est d'accueillir convenablement, c'est d'accueillir le bon nombre. La réalité, c'est que dans notre pays, nous n'avons pas de politique migratoire. Nous n'en avons pas. Oui, nous ne savons pas qui nous voulons accueillir, nous ne savons pas combien nous pouvons accueillir, et forcément donc on est dans un débat complètement stérile, instrumentalisé par les élus comme Aurélien Taché, qui pensent qu'ils ont
On aura tout entendu.
Parce que de dire qu'il n'y a pas de sujet, c'est encore une fois.
Mais on fait quoi? Regardez,
les préoccupations des Français, c'est très bas.
Vous voulez un moratoire sur l'immigration, qu'est-ce que vous proposez?
D'abord, c'est que le droit d'asile puisse être étudié dans nos consulats à l'étranger, là où les migrants transitent. Ça ne marche pas, ça pourrait marcher. Il n'y a quasiment personne qui arrive directement en France sans transiter par des pays où nous avons d'ailleurs la chance d'avoir un des réseaux consulaires les plus puissants du monde. On pourrait s'en servir. Oui, et bien ça, ce sujet avec les pays, il y a un moment où il faut quand même qu'on arrive à conditionner notre aide au développement avec des vrais accords de coopération en matière notamment de reconduite à la frontière, mais aussi évidemment sur ce sujet de l'étude du droit d'asile, parce qu'on ne peut pas continuer à avoir des centres d'hébergement d'urgence saturés par des gens qui ne repartent jamais, et c'est un des échecs de ce gouvernement.
Dernier mot, Bruno Bonnel, c'est la fin de l'émission.
Comment voulez-vous que des pays coopèrent pour aider des gens qu'ils persécutent à partir? Ça n'a pas de sens.
Je ne parle pas des pays.
Mais vous dites qu'il faut faire la demande d'asile
des pays de transit.
Algérie, Maroc, Tunisie, qui sont les premiers pays qui demandent avec des gens qui demandent la nationalité française.
Les trois premiers pays,
c'est Algérie, Maroc, Tunisie. Alors Tunisie, si vous voulez, on le met de côté parce que effectivement, c'est un pays qui est déstabilisé en ce moment. Mais Algérie et Maroc, je suis désolé, non. Aujourd'hui,
c'est une immigration légale, on a compris.
Il n'y a pas beaucoup. Enfin, il y a des gens qui sont torturés, mais tous les gens qui viennent, qui fuient le Maroc ou l'Algérie pour venir en France, ne sont pas tous torturés.
Mais moi, le dernier mot que je veux dire, c'est attention, nous avons des grands professionnels, contrairement à ce que l'opposition voudrait faire croire, qui étudient ces dossiers toute la journée. Attention à l'amateurisme dans ce domaine. Et ne retournons pas les choses. Nous savons que, un, les pays ne veulent pas effectivement laisser partir les gens, ne veulent pas les trier. Deuxièmement, ne veulent pas qu'ils retournent parce qu'il faut un visa du pays de destination pour qu'effectivement une obligation de quitter le territoire soit effective. Et quant à la légende de faire croire que ça va se monnayer, c'est ce qui se passe actuellement en Angleterre. Et regardez la réaction de l'Europe quand M. Johnson dit « Je ne paierai pas l'Europe et je vous renverrai les migrants à la mer ». J'ai pas envie d'être dans cette France-là.
On débattra de tout cela dans les prochains Punchlines. Merci à vous tous de votre fidélité. Dans un instant, sur Europe 1, musique avec Grand Corps Malade, programme exceptionnel, 3 heures en compagnie de Grand Corps Malade, accompagné de Stéphanie Loire, bien sûr. Il aura carte blanche ce soir sur notre antenne sur Europe 1. Bonne soirée à vous tous et on se retrouve dès lundi pour Punchline à 18h. À bientôt.
Punchline.
Laurence Ferrari sur Europe 1.